Bonjour à toutes et à tous. Après Grégoire Damon pour son roman Fast Food, nous accueillons aujourd'hui Swann Merali et Zach Deloupi, auteurs de la BD algérienne. Cette BD fait aussi partie de la sélection en lice pour le prix des lycéens d'Auvergne-Rhône-Alpes. L'auteur et l'illustrateur de la BD rencontrent les élèves de la classe de première S2 et nous profitons de leur présence pour leur poser quelques questions.
Bonjour Swann et Zach. Vous êtes scénariste et illustrateur de Algérienne. Pouvez-vous nous résumer en quelques mots l'histoire de cette BD ?
Zach, je te laisse. Ouais, alors c'est une évocation de la guerre d'Algérie à travers le regard des femmes. L'idée de Swann dès le départ, c'était de raconter la guerre d'Algérie, mais non pas une guerre de position ou d'armée ou de combat, de ligne de front, des choses comme ça. C'était de parler des humains, et en l'occurrence des humaines, des femmes qui ont vécu cette guerre. Et ce qui en fait ses particularités, en tout cas c'est ce qui m'a séduit quand il m'a proposé le projet, c'est que ces femmes sont dans des camps différents, elles ne sont pas forcément rencontrées dans la vraie vie. Du coup on a un panorama de toute cette guerre à travers ce regard féminin.
Et du coup d'où vous est venue l'idée de ce sujet de la guerre d'Algérie et des femmes ? Et avez-vous choisi vous-même le sujet ou vous l'a-t-on proposé ou...
Bah du coup, en fait, on l'a proposé, nous. D'abord, moi, j'ai proposé à Serge, puis après, on l'a proposé aux éditeurs. Pour le choix, du coup, du point de vue des femmes, c'était plus que... Moi, j'aime pas qu'on parle que d'histoire du point de vue des grandes dates ou des grands personnages. Donc d'abord, je me dis que j'allais faire plutôt une BD sur les gens un peu qu'on pourrait croiser dans la rue. Donc autant des résistantes engagées que des résistantes mitigées, que des gens qui ont subi la guerre. Et du coup, comme j'étais parti un peu dans cette réflexion-là, je me suis dit, bah tiens, allons encore plus loin. Et laissons aussi la parole aux personnes qu'on n'a pas forcément trop entendues. Donc encore moins, on va dire, que le monsieur tout le monde, pourquoi pas la madame tout le monde en quelque sorte.
Pourquoi avoir choisi des personnages fictifs plutôt que des gens réels ? Et pourquoi le choix de la fiction plutôt que de la biographie ?
C'est vrai qu'à la base, même on voulait utiliser des récits, des témoignages, mais d'un bloc. Puis après on s'est dit qu'avec Serge, qu'on n'était pas journaliste ou pas... on faisait pas de documentaire, donc nous notre arme de communication en quelque sorte, ou de transmission, de partage, c'est la fiction. Il y avait ça, puis on voulait pas parler du récit d'une seule personne. À chaque fois c'était vraiment, on veut qu'un peu que tous ces récits s'expriment d'une même voix. Du coup très vite on s'est dit qu'on allait prendre des faits réels, mais qu'on allait mettre en fiction.
Moi si je peux poursuivre, j'avais fait juste avant un livre qui s'appelait Love Story à l'Iranienne, qui était un vrai, entre guillemets, un livre de journaliste, c'est-à-dire de témoignages réels, de gens réels, qui avaient accepté de témoigner sur leurs conditions de jeunes gens en Iran. Et j'avais pas envie de répéter la même chose. Un livre de bande dessinée, on passe en général un an, parfois un an et demi avec... c'est une super belle immersion parce qu'on apprend plein de choses et moi c'est comme ça que je travaille en lisant des choses, en allant voir des films, en discutant aussi. Et quand Swann m'a apporté le projet, j'étais content que ça soit aussi une fiction, parce que la fiction elle permet des artifices que la réalité ne permet pas toujours. On dit toujours que la réalité est plus forte que la fiction, c'est vrai, parfois la réalité amène des choses qu'on n'imaginerait pas forcément dans un récit, mais en l'occurrence là on pouvait jouer avec les parcours de ces femmes, les faire se croiser par exemple. Si vous avez lu Algérienne, il y a trois moments où les personnages se rencontrent. Dans la vraie vie, c'est quand même assez peu probable qu'on ait ces points de vue-là aussi forts. Ça peut arriver, hein, c'est le hasard, ça s'appelle le hasard, et donc ça peut arriver. Mais en l'occurrence, ça permettait plein de subtilités narratives et graphiques qui étaient finalement bien plus intéressantes que si on était resté sur un témoignage pur sans en bouger.
Du coup, votre BD peut appartenir au genre de la BD de reportage. Avez-vous eu des témoignages directs ?
En fait, non, du coup. Je pense que c'est pas une BD de reportage. Et c'est pas non plus une BD historique. Dans le sens où on suit pas un récit historique très très précis. Je sais pas à quel genre ça pourrait se rapprocher. Au milieu du chemin de tout ça, quoi. Il y a de l'historique, évidemment, puisqu'on parle d'un récit historique et d'une guerre qui a existé. Il y a évidemment un tout petit peu de documentaire, parce que, comme Swann l'a expliqué, mais je vais peut-être lui laisser la parole sur ce point de vue-là, il s'est quand même servi de témoignages réels.
Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris plein de récits, de témoignages, autant à travers des bouquins que des documentaires. Et après, j'ai surtout conservé la réalité... des émotions, la réalité des ressentis, la réalité de... Alors, j'ai pas envie de dire des faits, parce que les faits, des fois, j'ai changé de circonstances, la manière dont c'est produit. Mais en tout cas, c'est comme si j'ai fait plein de petits bouts de morceaux que j'ai remis ensemble, puis après, j'avais un peu réécrit tout ça pour chaque personnage, aussi pour en donner une nouvelle identité et une nouvelle lecture, quoi.
Zach Deloupi, dans Love Story à l'Iranienne, vous faisiez déjà de la BD de reportage. Vous sentez-vous journaliste ?
Ah non, vraiment du tout. Je suis comme le réceptacle, en fait, ou du journaliste quand je travaille avec des journalistes, ou du scénariste quand je travaille avec un scénariste. Vraiment, le travail qu'on fait Jeanne Deuxart, c'est 4 ans en Iran, clandestin, avec des risques énormes, hein, je veux dire, emprisonnement, pas torture, mais ça peut aller viol pour les femmes parfois dans les prisons. Enfin, c'est vraiment des vrais risques que eux prennent. Moi, très honnêtement, je suis confortablement installé dans mon atelier, au chaud, je regarde la neige tomber par la fenêtre. On est dans un pays qui protège relativement les artistes. Je dis relativement parce qu'il y a quelques choses qui se sont passées ces dernières années qui montrent que la parole est quand même surveillée. Mais en tout cas, par rapport à l'Iran, j'étais relativement tranquille. Donc je suis plutôt le réceptacle de tout ça. C'est eux qui ont pris les vrais risques et c'est eux qui m'ont amené ce projet. Moi, je suis dessinateur de ce projet. Je ne me sens pas du tout journaliste. Après, la bande dessinée de reportage devient un élément de journalisme, mais ce n'est qu'un élément.
Pour vous, quel est le rôle des livres dans la société ? En écrivant algérienne, vous inscrivez-vous dans une démarche de devoir de mémoire ?
Bah pour le coup, la BD, c'est vraiment un devoir de mémoire. Déjà, c'est juste un devoir d'en parler. Et donc après, la mémoire vient bien sûr après. Que si moi, c'est aussi l'idée du sujet, c'est parce que j'ai remarqué que je n'avais rien de la guerre d'Algérie. Et donc du coup, mon ignorance m'a donné envie de me dire, mince, quel type de BD, moi, j'aurais aimé lire pour découvrir cette période-là. C'est assez important. Alors peut-être pas de dire les livres, mais de manière générale, l'art et la culture servent comme, si ce n'est déjà outil de curiosité, outil d'ouverture. Et je pense que dans notre société, on ne se rend pas compte à quel point on est quand même assez... on a de la chance d'avoir cette ouverture-là. Parce que d'ailleurs, notre dernier voyage à Alger, on a rencontré quelqu'un qui lui se disait voilà, qu'il essaie un peu de découvrir des livres, des choses comme ça. Donc une personne qui a la soixantaine, hein, quand lui a dit, une Française d'origine algérienne, quand lui a dit « Comment vous sentez-vous dans votre pays ?» Il a dit « Comme en prison ». Donc on voit que c'est important quand même d'avoir cette ouverture-là. Et puis ça permet forcément de lutter contre, si ce n'est de... Le devoir de mémoire, c'est pas de refaire les conneries qu'on a faites avant, mais les autres choses, c'est aussi lutter contre le racisme, lutter contre l'obscurantisme, ce genre de choses.
Vous connaissiez-vous déjà avant ou vous a-t-on mis en relation pour travailler sur cette BD ?
Non, on se connaissait parce que j'avais publié Swan dans une petite maison d'édition qui s'appelle Jargie. Donc j'avais eu la chance de le rencontrer de cette manière-là. J'étais pas le dessinateur du projet, pour le coup j'étais l'éditeur. Je pense que tu as pensé à moi du fait de Love Story à l'iranienne, peut-être, au départ. Puis au départ ça devait être un collectif algérienne, on devait être plusieurs dessinateurs et dessinatrices pour travailler chacun sur un portrait. Puis les éditeurs n'étaient pas très partants pour ça, on sentait un peu réticents à l'idée. Puis il y en a un qui a dit j'aimerais bien que le projet se fasse, mais avec un seul dessinateur. Et on a tout réécrit en fait, tout changé aussi. Il a introduit le personnage de Béatrice, le lien en fait entre toutes ces femmes. Et moi, le projet, pour répondre à ta question précédente, le projet me parlait vraiment, parce que je viens d'une famille qui n'a pas vécu la guerre d'Algérie. J'ai ni oncle, ni grand-père, ni père même qui ont fait la guerre d'Algérie. Jamais j'ai abordé la guerre d'Algérie quand j'étais en histoire, ni en troisième, ni en seconde, ni en première. Et c'est pourtant, j'en suis persuadé aujourd'hui, encore plus maintenant que la BD est sortie, j'en étais déjà persuadé quand tu m'as apporté le projet, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, c'est un thème central de la société française. C'est-à-dire que ça explique plein de choses, de comment on vit, nous, aujourd'hui, ça, et comment on le vit de l'autre côté de la Méditerranée.
Comment travaille-t-on à la réalisation d'une BD à deux, ensemble, chacun de son côté ? On commence par quoi ? Le dessin, le texte ?
Du coup, on commence par le scénar. Donc d'abord, l'histoire, ça fait un traitement. Après, moi, je fais un premier, j'appelle découpage texte, mais plus précis. Après, je file à Serge. Serge, il fait un premier crayonné de toutes les planches. Et là, on fait plein d'allers-retours pour se dire, est-ce que ce serait mieux de cette partie du scénario, en fait, de cette manière-là, ou inversement, ce dessin-là, ou cette planche-là, ce crayonné, de cette autre manière. Moi, je recorrige plein de fois le texte aussi. Là, ce qui était dur pour cette BD-là, c'est comme c'est assez complexe, la guerre d'Algérie, c'était quand même resté assez simple et clair, quoi. Puis alors, on fait plein d'allers-retours, puis quand tout est calé. Donc, le crayonné, c'est une première approche de la BD, mais qui n'est pas définitive. Après, Serge passe à l'ancrage, et là, les planches sont fixées, quoi.
D'accord. Et depuis quand écrivez-vous en BD ? Depuis quand dessinez-vous ? Et avez-vous d'autres activités professionnelles en parallèle ?
Moi, je dessine depuis 15 ans, à peu près 15-20 ans. Mais j'ai toujours fait du dessin, en fait. Après mes études, j'ai fait de l'illustration jeunesse, j'ai fait de l'illustration plus... ce que j'appelle l'illustration alimentaire, c'est-à-dire plutôt pour la publicité ou des choses comme ça. Mais toujours sans jamais être salarié, toujours en ce qu'on appelle freelance. Et il y a quelques années, il y a 15 ans à peu près, que je suis revenu à la bande dessinée. Parce que c'est vraiment mon média, c'est vraiment là où je me sens le plus à l'aise. J'aime beaucoup l'illustration, par exemple, je fais beaucoup de couvertures de romans. Mais bon, finalement, on est vraiment au service d'un texte, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que vous, lecteur, lectrice, ou professeur documentaliste, ou simple lecteur, ayez envie d'aller vers ce roman par la couverture. C'est très prétentieux, parce qu'en fait, c'est un élément qui fait qu'on y va. On y va pour le titre, on y va pour l'auteur, on y va parfois pour la couverture, souvent pour le quatrième de couvre, ou aussi parce que quelqu'un nous a dit ça, c'est absolument génial. Donc j'ai fait ça pendant longtemps, je trouvais ça intéressant, mais c'était pas mon média, je me sentais pas très à l'aise finalement, j'étais qu'un participant, là pour le coup j'étais qu'un illustrateur de quelque chose. Dans la bande dessinée, et là aussi je reviens un peu à ta question précédente, c'est un mélange en fait, c'est pour ça que Swan a parlé d'aller-retour, pour moi c'est sans cesse ça, la BD elle arrête de faire des allers-retours le jour où elle est imprimée. Tout au long du travail, l'idée c'est de converser entre ce qui est écrit et qui n'est qu'un scénario, je dis qu'un scénario mais c'est pas péjoratif, et ce qui n'est qu'un dessin, et c'est les deux mélangés qui font la bande dessinée. Pour moi, c'est un langage super riche, la bande dessinée. J'en ai la preuve chaque jour, parce que chaque jour sort une BD sur une thématique ou sur une approche que j'aurais absolument pas du tout imaginée. J'ai rencontré un dessinateur de bande dessinée à Angoulême qui a illustré un match de tennis entièrement, de la première balle lancée à la dernière. Il n'y a pas un son, enfin il n'y a pas un son, il y a le son des balles, mais il n'y a pas un texte. Et ça marche à fond. C'est un mec qui s'appelle Grégory Parnassion, et c'est absolument génial. Et j'aurais jamais eu l'idée de dessiner un match de tennis, c'est lui a eu l'idée. Et
je rebondis du coup sur quand tu disais que la BD est finie, qu'on l'a imprimée. C'est vrai qu'il faut s'imposer de pas d'un jour la terminer, quoi. Et en plus, même là, quand il y aura des rééditions, on a fait quand même des petites corrections apportées sur des mots.
Et en parlant d'édition, vous qui êtes éditeur, pourquoi ne pas avoir édité Algérienne dans votre propre maison d'édition ?
Alors j'ai publié 9 livres chez Jargy, donc la maison d'édition qui s'appelle Jargy. Donc j'ai publié surtout mes premiers livres. Et puis Jargy, c'est une toute petite maison d'édition qui a peu de moyens, qui fait que 3 livres par an. Donc aujourd'hui, j'estime en même temps, je suis en train de refaire un livre pour Jargy, donc je suis un peu en contradiction, mais ça c'est normal, on coupera au montage et tout ça. Mais j'ai estimé qu'il fallait aussi que je laisse ma place chez Jargy, et là j'avais besoin d'un ce qu'on appelle un avaloir, c'est-à-dire que c'est la somme qui est donnée par l'éditeur en avance pour travailler, qui soit assez important, puisqu'on part sur 100, je crois que c'est 120 planches algériennes, donc... C'est une grosse année de boulot et je voulais pendant cette année-là ne pas avoir à aller chercher des petits boulots d'illustration ou des choses autour pour travailler. J'aime bien l'immersion, j'aime bien cette idée d'immersion pendant un an. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas publier chez Jargy, ce qui ne m'empêchera pas, donc, comme je le disais en toute contradiction, de refaire un livre chez Jargy l'année prochaine.
Et si vous deviez vous décrire vous et votre travail en quelques mots, que diriez-vous ?
Vas-y Swan.
Moi je sais pas, mais mon travail en quelques mots, j'en sais rien. Alors je sais pas si ce sera quelques mots, mais en tout cas, ce que je peux dire, au moins une info, c'est que le scénario c'est pas un outil, c'est pas un produit fini. Donc le but c'est juste qu'il soit au service d'une histoire, et c'est que la première étape. C'est-à-dire que personne n'a derrière le scénario, c'est un outil de travail. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, qui est de dire, le scénario, il ne faut pas s'arrêter à ça. Je ne sers qu'à lancer un peu la boule de neige. Après, le métier de scénariste, ce n'est pas faire une BD, en fin de compte. Fini, quoi. Et toi, Serge ?
Moi, c'est toujours une histoire de plaisir. C'est-à-dire que je pense que j'étais celui qui dessinait dans la classe, donc j'ai toujours dessiné beaucoup. Et je continue toujours à beaucoup dessiner, même pour mon propre plaisir. Quand je suis en voyage, j'emmène des carnets, je dessine. Ce n'est pas toujours en direction d'un livre, c'est parfois pour mon propre amusement. Et aujourd'hui, où j'ai vraiment le choix de travailler dans une direction ou dans une autre, ou avec telle ou telle personne, c'est vraiment un grand bonheur, quoi, de me dire, tiens, je vais faire un an d'immersion en Algérie, c'est-à-dire aller en Algérie, c'est-à-dire lire des choses sur l'Algérie.
Pour terminer, qu'aimiez-vous lire à notre âge ? Et si vous aviez des conseils de lecture à nous donner, quels seraient-ils ?
Du coup, alors, en premier, vous avez 16-17 ans, c'est ça ?
Oui.
Du coup, moi, déjà, je vais lire la BD, mais aussi des livres, voir des films, écouter de la musique. En BD, à votre âge, quand je suis devenu étudiant, c'était sous la BD d'humour que j'ai découvert. Pétillon, avec Jacques Palmer. Sinon, Eddie K, qui fait des BD d'humour un peu pas en fil glacial.
Alors, moi, j'étais un super gros boulimique de lecture et de films et de tout ce qui me passait par les mains, quoi. C'est-à-dire que j'étais dans une génération où les CDI n'étaient pas remplis de bandes dessinées, par exemple, et il y avait très peu de romans jeunesse. J'étais un voleur, quoi. J'ai pris à droite, à gauche, chez les oncles, chez les tantes, les BD que je trouvais, les romans que je pouvais lire, sans classification. C'est-à-dire que je pouvais lire des choses qui étaient très bien sans savoir que c'était très bien. Et je pouvais voir indifféremment un très bon truc comme un mauvais.
Eh bien, merci Swan Merlier et Zach Deloupé de nous avoir consacré un peu de temps. Bonne continuation à vous et à bientôt.
Merci.